driving me insane. I'm going paying everything white.
Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonsoir et bienvenue sur Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture tous les mercredis de 19h à 20h sur Radio G, sur 1.5 FM. J'ai le plaisir de retrouver ce soir Héloïse.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Super bien.
De quoi
vas-tu? Très heureuse
d'être là. Ah bah oui, également.
De retour.
Ça fait plaisir de te revoir depuis le temps.
Oui, c'est vrai.
De quoi vas-tu nous parler ce soir, Héloïse?
Alors ce soir, je vais vous présenter trois bandes dessinées que j'ai particulièrement aimées, que j'ai pu lire pendant et après le confinement.
D'accord. Voilà. J'ai le plaisir également de retrouver Pablo.
Hello.
Comment vas-tu?
Eh bien, ça va pas mal.
Ça va bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Alors ce soir, je vais vous parler du rire.
Du rire. Je pense que ça va nous faire du bien.
Oui.
Ben, j'espère.
Ouais,
c'est
ça va
pas
être
une
sympa,
période
ça.
Qui prête beaucoup à rire. Mais justement, on va essayer de réfléchir sur le rire.
Super, bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Bonsoir Anaïs.
Salut tout le monde.
Comment vas-tu?
Ça va, contente de vous retrouver, de retrouver Adrien, Héloïse, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu.
Mais
et
c'est
puis pas
clair.
Beau.
Ouais, trop.
Alors
bien.
De quoi vas-tu nous parler ce soir?
Eh bien moi ce soir, je vais encore vous parler d'une série, et encore une série un petit peu d'horreur.
Waouh, attention. Attention, on va avoir peur dans les chaumières. Quant à moi, eh bien écoutez, je vais vous emmener en 2005 pour la sortie d'un film. En fait, l'environnement de l'actualité m'a fait me replonger dans un film qui me fait me sentir mieux. Et donc, je vais vous emmener. Je vous en dis pas plus, mais c'est une histoire de vengeance. Et pour commencer cette émission, eh bien écoutez, on va commencer avec Rock de Casbah du groupe de punk londonien The Clash,
yes.
Avec la chanson Rock de Casbah, parce que le caractère subversif du groupe londonien The Clash, un pionnier du punk rock, semblait innovant, idéaliste. Dans son titre Rock de Casbah, le groupe se moque des révolutionnaires islamiques en Iran en 1979. Ils avaient à l'époque interdit la musique occidentale, et la chanson raconte comment un dirigeant fondamentaliste essaie par toutes sortes de moyens d'empêcher la population d'écouter de la musique. Mais le peuple ne se laisse pas priver de sa liberté, et tous, juifs comme musulmans, dansent ensemble. La musique punk a rarement été autant d'actualité. C'est parti.
Bravo.
Sur Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5,
la radio du fait le pont.
Shake it to the top. The shake he drove his Cadillac. He went cruising down the ville. The prison was a standing on the radiator grill. Shall we come back? Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound.
then the triple band took fire. The crowd thought I will. That crazy kill punch. Tuned to the cockpit radio player. Soon as the sheriff comes out of their hair, the jet pilots wave.
Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage, du fromage. Qu'as-tu donc dans ton panier? Du fromage de chez Morel.
Héloïse,
oui, qu'as-tu donc dans ton panier?
Qu'as-tu donc dans ton panier aujourd'hui?
Eh bah, trois bandes dessinées ce soir, j'ai dans mon panier.
Super. Oh là là, la chance.
Alors, si on veut vraiment être précis, j'ai une bande dessinée, un artbook et un roman graphique. Parce que je suis précise dans mes choix.
T'as raison, la précision, c'est important.
Oui, c'est vrai. Donc, je commence par la BD qui a été d'actualité, qui l'est encore un petit peu. Qui est une bande dessinée de Sophie Lambda qui s'appelle Le Monde au balcon, carnet dessiné d'un printemps confiné.
D'accord. Wow. Raisonne. Alors.
Donc, j'ai commencé ce carnet en janvier 2020. Je voulais dessiner mon quotidien avec légèreté, sans objectif précis. Qui aurait pu prévoir que ce petit projet insouciant allait se changer en journal de bord de l'événement mondial le plus inédit du 21e siècle? Donc, du coup, cette BD, en fait, elle parle du confinement qu'on a vécu il y a quelques mois. Donc ce qui est génial, c'est qu'on s'identifie très facilement à l'auteur et à son expérience du confinement, en fait, parce qu'on l'a vécu d'une manière similaire. C'est super drôle, ça se lit facilement, et en fait, j'ai trouvé ça important de l'acheter, déjà parce que j'aime Sophie Lambda, d'un amour profond, mais aussi c'est parce que du coup, je trouve ça chouette d'avoir une trace de ce que l'on vit en ce moment, en fait, parce que pour moi... Le confinement, ça reste, j'espère, quelque chose, ça va rester quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, je trouve ça très chouette d'avoir ces petits souvenirs. Donc en fait, elle a commencé sur Instagram en postant des dessins. Donc tous les jours, elle postait un dessin et en fait, ça s'est transformé en la création d'un carnet, donc avec des petites anecdotes, des vraies photos. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. Et du coup, donc j'aime le travail de Sophie Lambda. Donc je vous avais présenté il y a quelques temps sa BD qui s'appelle Tant pis pour l'amour, où elle parlait de sa relation toxique avec un manipulateur. Et du coup, j'avoue que ouais, pendant le confinement, j'attendais ces petits dessins sur Instagram tous les jours. Et du coup, j'ai commandé le livre dans la foulée et je regrette pas. C'est drôle, ça se lit super bien. Donc voilà, je vous le conseille.
Ça donne envie. Il y a pas que oui de la BD. J'ai vu une petite recette
elle parle aussi. Enfin, du coup, elle fait des trucs super drôles parce qu'elle est graphiste freelance et du coup elle fait un moment elle compare son habit de pendant le confinement à quand elle est freelance et du coup c'est exactement le même et c'est super drôle. Franchement, voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire et je trouve ça vraiment important d'avoir une trace de ça. Donc du coup, Le Monde au balcon, c'est aux éditions Albin Michel et c'est au prix de 18,90€.
Il est beau, voilà, c'est un beau livre,
oui,
il faut le dire.
Oui, avec le petit élastique, ouais. Qui fait vraiment carnet, en fait.
Exactement.
Elle a choisi et tout, c'est vraiment chouette.
Et la taille aussi, qui fait plus petite qu'une bande dessinée classique.
Ouais, qui fait petit carnet, c'est vraiment chouette à feuilleter.
Et puis j'aperçois la quatrième de couve et on a un dessin qui est un peu enfantin, mais c'est d'être faussement naïf.
Oui, non, mais elle a ce dessin-là, mais c'est vraiment chouette. Je vous conseille ça. Puis en fait, juste pour l'idée de la trace, en fait, que c'est un événement qui a été assez exceptionnel.
Historique, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est chouette d'avoir, de manière humoristique, d'avoir un souvenir de ça.
Cool, hein. Merci.
Vraiment. Pas de rien.
Super témoignage.
Alors ensuite, je continue avec une autre BD donc, qu'on vient de m'offrir récemment, parce que du coup, c'était mon anniversaire, et j'avais demandé cette BD sur laquelle j'avais... Enfin, cet artbook sur lequel j'avais zioté depuis... Oh, oula, des mois. Et qui s'appelle Rêve de Japon, qui est fait par l'atelier Sento. Donc en fait, l'atelier Sento, il nous fait découvrir son Japon féerique. Donc dans cet artbook, il nous présente des centaines d'illustrations qui sont réalisées dans tous les styles graphiques. Donc il y a des aquarelles, des estampes, des crayonnés. Et en 6 chapitres, en fait, il nous offre une étendue de l'immense talent de l'atelier Sento et les secrets de fabrication de toutes les illustrations qu'on peut voir. Et c'est vraiment, voilà, c'est un voyage inoubliable dans un Japon rêvé et magique. C'est vraiment chouette. Du coup, ils ont aussi sorti une BD que j'avais présentée, oula, il y a quelques temps de ça, je pense l'année dernière, qui s'appelle Onibi. Et du coup, qui se concentre sur les yokai, qui sont les créatures surnaturelles dans le folklore japonais, qui a gagné beaucoup de prix, donc ils sont vraiment super doués. Et c'est vrai que c'est beau, c'est dépaysant, et ça fait du bien parce que moi qui est passionnée de Japon, c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est fait par un couple, et du coup, bah, je vous le conseille parce que c'est beau, et parce qu'on y apprend des choses, et c'est, enfin voilà. C'est trop bien et je suis trop contente de l'avoir reçu. Mon neveu et ma nièce me l'ont offert à mon anniversaire. Je leur fais des bisous et merci parce que c'est un super cadeau.
Il est magnifique comme livre.
Ouais, il est vraiment beau et tout est traduit. Alors tout ce qui est écrit à l'intérieur est traduit français, anglais, japonais. Et du coup, je trouve ça encore plus chouette parce que moi, qui ai très envie d'apprendre le japonais, je pense que je vais commencer à décortiquer quelques trucs en tout cas pour le plaisir. Donc ça s'appelle Rêve de Japon de l'atelier Sento et c'est aux éditions Omake Books au prix de 25€. Voilà.
Super, merci pour la découverte.
Ah bah avec plaisir.
Très très beau livre.
Oui, parce que là, vous le voyez pas, mais nous on le voit, mais il est vraiment chouette.
C'est un magnifique livre, format un peu plus grand que du A4, il est relié, on dirait presque de l'aquarelle à l'intérieur.
Oui, il y a vraiment de toutes les sortes d'illustrations, il y a des estampes, des crayonnés, c'est vraiment beau en fait. Et puis du coup, on sent bien le couple français qui est installé au Japon, dans la campagne japonaise, et qui du coup dessine ce qu'il voit et s'intéresse au folklore, etc. C'est vraiment chouette. Enfin, en tout cas, quand on est passionné de Japon comme moi, c'est vraiment un super cadeau.
Super, merci pour ces découvertes, Héloïse.
Ah bah, de rien, avec plaisir. J'en ai encore une.
Mais c'est ce que j'allais dire.
J'en ai une dernière. Si, si. Alors là, du coup, je pars sur quelque chose qui est un peu... Voilà. Je vais pas spoiler, je vais en parler. Ce roman graphique, il s'appelle « C'est comme ça que je disparais » de Myrion Mal. Donc, Myrion Mal, c'est une blogueuse à la base qui a fait plusieurs livres. Et ce livre-là, c'est vraiment une tranche de vie douce amère. En fait, c'est dans la façon dont l'héroïne et les personnages qui gravitent autour d'elle, elles donnent à voir leurs difficultés, leurs peines, les relations amicales et amoureuses. Et surtout que ça nous entraîne au plus près des personnages et de leurs émotions, mais surtout au plus près du mal-être et de la dépression qui est vécue par l'héroïne. Donc oui, c'est pas très très gai, mais en fait, je trouve ça important de parler de dépression, sachant que c'est un thème qui est toujours tabou. La santé mentale, c'est toujours quelque chose de très tabou. Et du coup, je trouve ça chouette de pouvoir... vous allez voir, faut que vous le lisiez. Enfin, j'ai du mal à en parler parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps et ayant traversé des phases un peu compliquées, moi, ça m'a beaucoup parlé. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'en discuter parce que cette BD, vraiment, elle vaut le coup d'être lue, elle vaut le coup d'être partagée, elle vaut le coup d'être discutée. Et je ne l'ai même pas sur moi ce soir parce que je l'ai déjà prêtée. Donc c'est vraiment... Je veux que les gens la lisent.
C'est quelque chose qui se partage, du coup.
Oui,
forcément.
C'est ça. Ouais. Même si certes, le thème n'est pas super positif. On parle de dépression, c'est pas évident. Enfin, et tout le monde a l'approche différente de la dépression. Mais je trouve ça important. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le livre qui dit « En ce moment, tout est juste trop vide et trop plein en même temps. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir comme ça à certains moments.
C'est vrai que c'est très très juste.
Oui, c'est chouette de pouvoir se retrouver en fait dans l'état de l'héroïne en fait. Parce qu'on voit vraiment comment elle s'isole et comment les amis essayent d'être là. Et il y en a un qui est là et qui est presque trop insistant, disant non mais je m'inquiète, et qui du coup reste étouffant. Il y a l'ami un peu en retrait. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent. Et il y a vraiment en fait tous les personnages qui sont proches de l'héroïne, ils sont creusés et en fait c'est super bien de voir les émotions comme ça qui sont liées et l'héroïne qui se met en retrait parce qu'elle peut pas en fait, elle arrive pas et elle finit par exploser un moment, mais enfin super chouette, vraiment je vous le conseille. Certes c'est pas super gay, mais ça finit sur une note positive, rassurez-vous.
Ouais.
Mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'on a tous connu peut-être des moments en dents de scie pendant le confinement.
Ouais.
Où on a fait un peu les montagnes russes émotionnelles et c'est
on
vrai que je pense
chocolat.
Que voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que voilà, on a essayé de compenser parfois la dépression avec le chocolat. Et mais c'est vrai que voilà, c'est ça a été des moments très compliqués, très difficiles pour certains et pour enfin moi particulièrement mais
Ah, puis c'est un sujet vraiment délicat à
aborder. Et c'est un sujet délicat. Effectivement, ouais, la bonne distance de soi aux autres quand on est dans cet état, dans cette maladie en fait. Hein.
Ouais.
Et c'est vrai que ça fait pas très longtemps qu'on en parle comme une véritable maladie.
Et puis tout le monde commence à délier les langues, à dire bah oui, moi j'ai vécu de la dépression, la santé mentale c'est important. Enfin, il y a plein d'artistes qui essayent de partager ça aussi. Et je trouve ça super important. Enfin. Je pense entre autres à une chanteuse qui a dit récemment qu'elle était bipolaire et du coup qu'on parle et du coup c'est toujours des maladies où quand on entend le nom on a peur.
Bien
en
sûr.
Fait non, c'est bien de pouvoir aborder tout type de choses en fait et dont la santé mentale c'est précieux. Et du coup c'est pour ça que la communication et l'écoute c'est important parce qu'il faut pas non plus en gros se vider auprès de quelqu'un sans lui avoir demandé s'il était capable de prendre en fait ce qu'on va lui donner aussi, c'est super important. Et je trouve qu'elle le décrit bien dans le livre en fait. Il faut que les gens puissent être capables d'entendre en fait ce qu'on leur dit, c'est pas forcément toujours évident. Donc du coup je vous la conseille, c'est une chouette lecture. Donc c'est comme ça que je disparais de Myrion Mal aux éditions La Ville Brûle au prix de 19 €.
Merci Héloïse.
Merci Héloïse, un livre pour apprendre à se sentir mieux.
Oui, mais ça fait toujours du bien, surtout en ce moment.
Super.
Clairement.
Et puis écoutez, moi je vous propose une petite balade musicale, c'est Imagine Dragons qui va nous emmener.
Ah ouais, chouette.
Sur yes. Radio G 101.5 FM.
La radio qui fait le point.
If the last thing that I do is bring you down, I bleed out for you. So I bare my skin and I count my sins and I close my eyes and I take it in. I'm bleeding out. I'm bleeding out for you. For you. My way around and the season stopped and hide beneath the ground when the sky turns gray and everything is screaming. I will reach inside just to find my heart is beating. Will you tell me to hold on? Will you tell me to hold on? But in the sense it's gone and what was right is gone. Sinking in and the wolves all cry to feel the night with horror in when your eyes are red and emptiness so you know with the darkness fed I will be your scarecrow. You tell me to hold on. You tell me to hold on. But in the sense is gone and what was right is gone.
Cause I'm bleeding out. Save the last thing that I'll do. Supreme. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Alors, Annelies, où est-ce que tu nous emmènes hein?
Alors, je vous emmène dans l'horreur. Alors, un petit peu moins peut-être que les séries dont je vous ai parlé il y a 15 jours, où on était vraiment dans le sang. Là, c'est plus dans une angoisse, dans une ambiance un petit peu angoissante. Netflix a sorti la deuxième saison d'une série d'anthologie horrifique qui a été créée en 2018 par Mike Flanagan. Et donc, Héloïse, je te propose de dévoiler le nom de la série. Tu le prononceras mieux que moi.
Ah, d'accord, ok. Alors, ouais, attention. Tu m'aides. The Haunting of Bly Manor.
Voilà, et la saison 1, c'était...
The Haunting of Hill House.
Voilà.
En accent anglais, à couper au couteau.
Ouais. Mais c'est bien, je suis bien contente. Wonderful. Alors, c'est quoi, du coup, Bly Manor? Donc, en 2018, le réalisateur Mike Flanagan, qui avait réalisé, on en avait déjà parlé aussi, Dr. Sleep,
oui,
a créé donc la surprise avec cette série, donc la première saison, qui était centrée sur des histoires de fantômes. C'était l'adaptation du roman fantastique La Maison Hantée de Shirley Jackson, pour ceux qui connaissent. Et donc ça a marqué les esprits, tant dans la mise en scène, à la fois précise et assez élégante, que par son scénario qui mêlait avec une adresse assez étourdissante les scènes effrayantes et les moments intimes dévastateurs émotionnellement. On était centré sur une famille et tous les personnages avaient un épisode dédié on découvrait toutes ces histoires de fantômes. Donc Mike Flanagan avait annoncé une deuxième saison et on avait hâte, et donc on est content que ça soit sorti. Pour le coup, c'est pas une adaptation d'un autre classique du roman fantastique. Si, c'est justement l'adaptation, pardon, d'un autre roman qui s'appelle La Tour d'écrou, ou Le Tour d'écrou, pardon,
ouais,
de Henry James, que ouais, tu connais, Pablo,
ouais,
quoi,
très très bien,
qui a petite été adapté nouvelle, plein de fois au cinéma. Il
ouais,
y a eu Les Innocents en 1961 de Jack Layton, et Les Autres en 2001 d'Alejandro Amenábar.
Tout à fait.
Donc Le Tour d'écrou racontait les mésaventures d'une jeune gouvernante engagée par un riche célibataire pour garder son neveu et sa nièce orphelins depuis la mort de leurs parents. Mais très vite, la gouvernante se retrouve désemparée face au comportement étrange des deux enfants, qui semblent sous l'influence du fantôme de leur ancienne gouvernante, morte peu avant l'arrivée de la protagoniste, et aussi hantée par d'autres fantômes. Donc en fait, on a dans la série la reprise des très grandes lignes de l'intrigue du roman de Henry James, et c'est de manière très maligne. Tout d'abord, le réalisateur a bien compris la nature de l'œuvre, qui diffère grandement de La Maison Hantée. On n'est pas du tout dans le même style que la saison 1. Donc ce roman d'horreur psychologique qu'est Le Tour d'écrou emprunte bien plus au roman gothique finalement, quoi. Et donc voilà, on a une ambiance assez différente de la saison 1. Je
ouais,
pense qu'Héloïse, t'es d'accord
ouais, complètement.
Avec moi.
Je suis à fond dedans en ce moment et oui, je te rejoins totalement.
Mais comment vous faites pour dormir après?
Et ben, moi, j'avoue que ça n'empêche pas de dormir pour l'instant, mais pour l'instant, en tout cas, je suis pas rendue loin, mais elle me fait moins sursauté que la saison 1.
Et ben c'est exactement ça.
La saison 1, les jumpscares sont omniprésents, j'ai sursauté pas mal de fois. Et la saison 2, elle est plus soft, mais du coup, c'est des apparitions. Mais en fait, ça, moi, j'ai toujours envie. C'est ça. Et j'ai toujours envie de voir la suite.
Le cliffhanger est bien fait à la fin,
ouais,
à chaque fois. Okay.
Je veux décortiquer à chaque fois parce que je trouve ça super intéressant. Et l'ambiance, en fait. Puis le manoir est tellement magnifique.
Ouais.
Enfin,
dans les deux.
Je vis dedans. Je crois que
fait,
c'est le même, d'ailleurs.
Les décors sont. Ouais. C'est pas le même. Alors,
ouais,
du coup, parce que moi, après avoir revu cette deuxième saison, j'ai eu envie de revoir la première.
Voilà, c'est pas le même.
Et après, tu remets la deuxième.
Et après, non, je vais peut-être m'arrêter là. Je vais attendre qu'il y ait une suite, peut-être à la saison 1, parce que finalement, c'est deux histoires différentes.
Mais ce qui est bien, on peut regarder la saison 1 ou la saison 2, ou les deux, et dans un ordre qu'on veut, en fait.
D'accord.
Parce que c'est pas lié. Il y a des acteurs qui sont récurrents, des acteurs de la saison 1 qui reviennent dans la 2. Dont la gouvernante le rôle principal, mais je vais partir
de
l'actrice.
Qui est Victoria Pedretti.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et bah, du coup, qui joue déjà extrêmement bien dans la 1, mais dans la 2 aussi. Mais du coup, c'est bien, on peut regarder ça comme on veut.
L'oncle qui est finalement le papa dans la première saison.
Oui.
La narratrice de la saison 2, qui était un des personnages principaux, qui était la maman, qui devient un peu folle dans la saison 1. Donc, on a des personnages. Et puis, Alors sans te dévoiler, mais des personnages qu'on voit apparaître à la fin, dont une actrice qui était importante aussi dans la saison 1, qu'on retrouve dans un personnage hyper important et dans un épisode tourné en noir et blanc, qui est un peu moment clé.
J'ai trop envie, tu me donnes envie de regarder.
Donc il faudra que tu t'attendes l'avant-dernier épisode pour avoir un petit peu cette actrice qui pouvait pas intervenir plus qu'elle était enceinte au moment de la. De la
c'est quoi, c'est du noir et blanc tourné en 16 mm avec le grain et tout?
Ça crée. Voilà, on est vraiment du coup là à l'époque. C'est vraiment génial. Moi, c'est vraiment les. J'aime bien les films d'horreur. Mais c'est vraiment cela qui me passionne, cette ambiance un peu ancienne, cette atmosphère que j'apprécie énormément.
Et puis le manoir, je trouve qu'il amène tout le cachet là-dedans, la saison 2. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Le manoir, il est tellement magnifique. Et je me dis des fois à sa place, j'aurais tellement peur dans un manoir aussi grand, toute seule, quand tout le monde est couché. Mais elle est vraiment trop bien. Puis, tous les personnages sont creusés, en fait. Oui, ils creusent vraiment chaque personnage.
À chaque fois.
Que ce soit les enfants ou les adultes. Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui amène aussi l'horreur. Je trouve que c'est l'idée d'utiliser des enfants et les enfants qui voient quelque chose. Et moi, je trouve que c'est toujours hyper stressant quand c'est les enfants. Je sais pas pourquoi, mais déjà, les adultes, c'est stressant. Mais quand il y a les enfants qui regardent un peu à côté de toi et qui font elle est gentille à qui il parle.
Ouais,
je trouve ça génial.
Oh mon Dieu.
Moi, ça marche super bien sur moi, j'avoue.
Mais ce qui est agréable aussi, c'est on retrouve vraiment le. Il y a un parallèle quand même entre les deux. À chaque fois, il y a un épisode qui creuse un personnage, oui. Et en fait, on voit les événements se dérouler à plusieurs moments, mais pas vu par des personnages différents. Ouais. Et c'est comme ça qu'on creuse.
Ouais, j'aime bien ce type de chronologie. Ouais.
Et en fait, c'est super. Et la réalisation est vraiment chouette. Dans la première saison, il y avait un épisode qui était l'épisode de l'enterrement.
Ah oui, ah
qui
oui.
était filmé presque était fou, dans, comme un plan séquence finalement quoi.
Ah ouais.
Vraiment vraiment génial.
Celui-là j'ai sursauté plus d'une fois. Celui-là il faisait vraiment peur. Je me souviens que pourtant j'ai l'habitude d'en regarder aussi et j'avais sursauté je sais pas combien de fois dans cette saison-là.
Mais je comprends que ça accroche puisque ce genre de montage en tout cas dans les temporalités des séries. On avait parlé aussi dans Bande Geek Mafia de The Expanse, la série de science-fiction.
Oui.
Où justement les temporalités comme ça on ne sait pas à quel moment se passe chaque événement entre chaque personnage et ça se résout progressivement à la fin de chaque épisode, mais vraiment petit à petit, et ça permet de maintenir une accroche terrible à la série. Donc
mais ça donne toujours envie de regarder l'épisode d'après. Quoi.
Ouais, et finalement, l'espace-temps, il est toujours assez réduit parce que dans la première saison, ça se passe en un été. Et puis, c'est vrai qu'il y a on est à la fois dans le passé et dans le présent. On a les personnages qui sont enfants et adultes, ce qu'on n'a pas forcément dans la saison 2. Mais par contre, c'est pareil, on est toujours sur un temps d'un mois et il se passe plein de choses. Et on découvre les choses au fur et à mesure.
J'avoue que c'est chouette.
Donc je pense que on vous le conseille toutes les deux.
Ah oui, complètement.
Ça se passe à quelle époque?
Très bonne question.
C'est des années 80, je crois. 80. Je crois que c'est 80.
Pour les deux, parce qu'on retrouve des consoles de jeux vidéo dans les chambres.
Petit côté vintage.
Ouais.
Mais du coup, aussi, on remonte après, parce que les histoires de fantômes, ça date d'un siècle avant. Donc
on vous le conseille, allez-y les yeux fermés.
Ok.
Ouvert pour regarder, mais fermé pour y aller.
c'est merci Anaïs pour cette belle découverte.
Ouais, génial.
Donc on redonne le nom de la série.
Alors je vais essayer The Haunting of Hill House pour la saison 1 et Of Bly Manor pour la saison 2.
Okay. C'était beau.
Merci Anaïs, c'était parfait. Splendid, wonderful. On est parti pour un petit intermède musical et c'est Noir Désir sur Band Geek Mafia 101.5 FM, la radio qui fait le point, qui va nous emmener.
Chacun devient brûlé à la foire au pognon qui se traîne.
des heures et des heures d'entraînement pour jouer ça.
C'est vraiment le meilleur générique.
Vous n'imaginez pas à quel point l'équipe s'est entraînée pour ça.
Meilleur
truc de dingue.
Pablo, nous t'écoutons. De quoi veux-tu nous parler ce soir ?
Alors oui, je vais parler de rire. Mais voilà, cette chronique, je l'ai intitulée « Le rire, instrument de discorde ou lien de partage ». Je l'ai faite en hommage donc à Samuel Paty, assassiné vendredi 16 octobre, qui était aussi le jour de mon anniversaire et aussi triste jour pour la France, triste jour pour le monde, triste jour pour nous les enseignants. Donc cette chronique, je la dédicace en hommage donc à Samuel Paty et à tous les enseignants. Le rire est un partage d'émotions joyeuses avec autrui. C'est un acte positif, en général, qui augmente et renforce les liens avec les autres. Instaure une reconnaissance commune entre ceux qui le partagent. De plus, il propose une dimension légère qui contrebalance la pesanteur ou gravité de certains sujets, comme si on se disait à soi-même « Hey, tout ça n'est qu'un jeu ». Il y a différentes formes de rire, et tant de rires possibles. Le fou rire incontrôlable entre potes, le rire franc et gras au-dessous de la ceinture, la moquerie, le sarcasme qui rit aux dépens d'autrui, l'ironie qui déstabilise l'esprit de sérieux, une des armes favorites de Socrate, mais aussi le rire spirituel et le trait d'esprit, la plaisanterie badine, le rire de connivence. Le rire gêné et nerveux, selon les situations. Il s'agit de contrer l'autre, de le blesser, de le battre, voire de l'insulter. Forme de violence symbolique et psychologique. Ou simplement, il s'agit de partager une émotion, de créer un lien et une complicité, de susciter l'empathie ou la sympathie, voire l'amitié ou l'amour. Le rire et la caricature qui en découle sont-ils une barrière ou frontière invisible qui sépare les hommes entre eux et qui porte atteinte aux libertés individuelles ? Ou au contraire, le rire et la caricature sont-ils l'occasion d'un lien avec les autres, d'une résonance complice et d'une plus grande liberté ? Le philosophe français Henri Bergson a écrit un petit essai qui s'appelle « Le rire » justement. Voici en résumé le fruit de ses réflexions. Donc, je cite ici, j'ouvre les guillemets. « Pour comprendre le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel qui est la société. Et surtout, nous devons déterminer son utilité qui est sociale. Telle sera l'idée directrice de toutes nos investigations. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Il doit avoir une signification sociale. » Fermez les guillemets. Selon le philosophe, le rire a trois caractéristiques. La première, le rire est humain. C'est le propre de l'homme. Le rire est humain, seul l'homme rit. Disons que les animaux poussent des cris et font des grimaces. La hyène, le singe, la pie, le dauphin. Mais ne rit pas au sens humain et social. Bergson écrit, deux points, plusieurs philosophes ont défini l'homme un animal qui sait rire. Ils auraient aussi bien pu le définir un animal qui fait rire. Car si quelque autre animal y parvient, ou quelque objet inanimé, c'est par une ressemblance avec l'homme, par la marque que l'homme y imprime ou par l'usage que l'homme en fait. Je ferme les guillemets. Ce que veut dire le philosophe ici, c'est que le rire est aussi humain au sens où c'est l'homme qui prête à rire. Nous rions des caractères humains. Pourtant, nous pouvons rire de maladresse animale, comme lorsqu'un chien glisse et tombe sur un sol mouillé. En fait, dans ce cas-là, nous rions de caractères humains projetés sur des animaux ou prêtés aux animaux. La chute du chien est drôle, car elle rappelle celle d'un homme. Je me permets une petite remarque critique, ou une nuance. En étant totalement sûr que le rire soit humain, il se pourrait que l'éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal, nous démontre que certaines espèces intelligentes accèdent au rire, comme elles accèdent à la reconnaissance d'elles-mêmes dans un miroir, conscience de soi, ou self-direct behavior, comme c'est le cas par exemple des dauphins ou d'autres espèces. Ah donc, le rire est humain, nous avons dit, en ce double sens. Deuxièmement, nous allons dire que le rire a pour caractéristique l'insensibilité. Alors ça, c'est paradoxal. Le rire est une affaire mentale et plus intellectuelle que sensible. En fait, pour rire de quelque chose ou de quelqu'un, il ne faut pas entrer en empathie avec la situation ou avec la personne. Encore moins ressentir de la pitié ou de la sympathie ou quelque autre émotion que ce soit. Il faut une certaine distance intellectuelle pour rire. Ce que l'on perd en empathie, on le gagne en liberté de pensée. Parce qu'on se détache de l'émotion directe, de la réaction sensible. Enfin, en trois, le rire a quelque chose de collectif. Le rire est social, il est collectif, il est donc contagieux. Il se propage. Nous avons d'autant plus envie de rire et nous rions volontiers que les autres rient ou qu'un grand nombre de personnes se mettent à rire dans une salle, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qui est comique ? Bergson répond : du mécanique plaqué sur du vivant. Quand le geste, la parole, s'arrête brusquement d'être fluide, naturel, spontané, pour devenir haché, saccadé, discontinu. Par exemple, l'imitation qui caricature ou extrait de la personne tout ce qui est grossier, mécanique chez elle, et isole, simplifie, grossit les traits de façon artificielle, rompant avec la fluidité vivante. C'est ainsi que nous rions de tics ou de traits marquants, isolés d'une personne. Ou encore, quand quelqu'un chute dans une rue devant nous. Nous rions de cette rupture du mouvement qui quitte la fluidité de sa marche pour des mouvements saccadés, désordonnés, non contrôlés, s'achevant au sol. Enfin, Bergson explique que la fonction sociale du rire est une fonction, est une forme légère, pardon, de rappel à l'ordre. De cet ordre fluide de la vie qui a été momentanément rompu. D'où son aspect intimidant et humiliant. Ici, je me permets une autre remarque critique. Il est à noter que ce rire social intimidant et humiliant n'est pas présent dans les caricatures dessinées de Charlie Hebdo, qui se veulent justement satiriques et provocatrices. Si la bienveillance n'est pas toujours de mise, et si la méchanceté est parfois présente, elle l'est moins que la balourdise assumée, plutôt la clownerie qui surprend, émeut, sans qu'on s'y attende et donne à réfléchir. Mais ceux qui attaquent Charlie Hebdo, Samuel Paty et les enseignants laïcs veulent-ils être surpris, émus et réfléchir ? Qu'est-ce que la caricature alors ? La caricature utilise l'exagération de caractère physique comme métaphore d'une idée. L'exagération, le grossissement, voire la grossièreté ne sont pas là pour être pris au pied de la lettre, mais pour être pensés au-delà, dépassés et traversés avec légèreté. Or, au cœur de la liberté d'expression, il y a deux principes en tension, qui se combattent et pourtant s'équilibrent mutuellement, et qui cadrent la liberté. Ce premier principe, c'est la liberté de l'outrance, de l'exagération borderline avec l'insulte. Le deuxième, c'est le respect de la personne d'autrui, de ses croyances et opinions, propres à la laïcité républicaine. Or, s'il y a abus du premier, et donc injure, insulte ou diffamation, c'est à la justice de régler cela par la loi. Et si on renonce au deuxième, au respect de la personne, on renonce à la démocratie, qui est la cohabitation et confrontation des opinions. D'ailleurs, cette liberté est réciproque. Respecter autrui dans ses croyances, c'est respecter autrui dans sa pensée et sa liberté d'esprit critique. Mais les assassins de Samuel Paty et de Charlie Hebdo veulent-ils seulement la liberté, la démocratie et la République, et le respect de la personne ? Mais alors, qu'est-ce qu'une religion qui ne peut se regarder avec distance et rire de soi, qui est dominée par la peur du ridicule ou la peur de perdre en crédibilité ? C'est une superstition, sans conteste. La superstition a perdu le sens du respect et du lien propre à toute religion et ne conserve que la crainte. Elle lui réduit tout. Dans son esprit, tout devient mesquin et rabougri par la peur. Pour
un esprit religieux, il peut sembler évident que Dieu et ses représentants sur Terre sont bien au-dessus de tout ça. Or, notre rôle à nous, les enseignants, est de poser ces questions, d'examiner ces questions de façon critique et de l'apprendre aux élèves, de leur apprendre à s'élever pour voir plus loin. C'est là toute notre fonction, c'est là notre fonction symbolique et la plus noble. Enfin, pour revenir sur le rire, je dirais qu'il exprime trois choses essentielles. Premièrement, la distance de la liberté d'esprit, qui prend du recul et se décale, qui fait un saut de côté pour donner à penser, contre tout dogme et tout esprit de sérieux. Deuxièmement, en outre, le rire fait écho et résonne en nous tous. Il crée ainsi des liens qui nous rattachent aux autres. Il nous fait ainsi sortir de nous-mêmes, de notre intériorité et de nos égocentres. Il crée des liens qui nous libèrent. Enfin, troisièmement, il est naturel et spontané, en ce sens qu'il permet d'expulser des tensions nerveuses et psychologiques. Il est, en ce sens, cathartique. Il nous détache, ou nous décharge plutôt momentanément d'un trop-plein de tensions. Il nous libère de la violence et de la peur de façon positive. Or, dans un monde qui va mal, englué dans une pandémie planétaire, où la violence règne, la violence économique et sociale, si ce n'est guerrière, dans un monde qui s'achemine vers un grand effondrement climatique, le rire n'est-il pas ce qu'il nous faut cultiver en nous et avec les autres? Le rire n'est-il pas ce qui peut nous aider à aller mieux? Je vous laisse avec Yacine Bellatar, extrait de son spectacle Ingérable. Alors, pour la petite idée, l'anecdote, Yacine Bellatar est un natif de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, là précisément où a été assassiné notre collègue Samuel Paty. Merci de votre écoute, les amis.
C'est des tensions. Et c'est bien parce qu'en France, il n'y a pas de demi-mesure. Quand t'es pas Charlie, t'es Kouachi. Il n'y a pas de... Il y a des étapes entre les deux, vous savez, voilà. On peut ne pas être Charlie et être affecté, attention, hein, le deuil appartient à tout le monde. Et moi je pense que les Kouachi ne sont pas des terroristes. Oh, il l'a dit. Oh. Non, ils ne sont pas terroristes, c'est des assassins, mais ils ne sont pas terroristes. Carlos, terroriste. Ben Laden, terroriste. Il y a un budget, il y a un truc, tu vois. Kouachi, pas terroriste, et je peux le prouver ce soir. Tout ce que je vais dire est vrai.
Mais on sait...
Déjà, ils devaient attaquer le 10 de la rue, ils sont arrivés au 12. Pas du tout terroriste. Et moi, je rêve de rencontrer le mec qui leur a dit « C'est pas ici, c'est à côté, voilà. » Allahu Akbar, c'est juste là, là, tu sonnes là. Après, on remerciera jamais assez les Kouachi, ils nous ont fait quand même découvrir la France. Quelqu'un connaissait Dammartin en Goël il y a un an? Non. C'est joli là-bas, visiblement. Là. Et véridique, hein, ils ont pris la voiture d'une nana et la nana a déclaré « Avant de démarrer, ils ont mis leur clignotant à gauche. » Pas du tout terroriste. Hé frère, on peut buter des gens, mais va pas perdre un point bêtement. Et après, il y a eu Koulibaly. Bah, les Noirs, ça les a affectés. Hein. Koulibaly, c'est pas n'importe quel Noir. C'est le Dupont des Noirs. Rien qu'en Ligue 1, il y en a 400. Et à chaque fois, moi, quand il y a un attentat, je regarde le profil psychologique. Sid Ahmed Glam, vous vous souvenez de lui? Celui de Villejuif. Lui, c'est mon chouchou, lui. Lui, c'est mon préféré, lui. Lui, il s'est tiré dessus. Il s'est auto-attenté. Et après, c'est lui qui a appelé la police en disant « Allô ?» Ouais, ça pique, hein, voilà. Et il a tué quelqu'un, un Villejuif, parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait des Juifs à Villejuif, ce Mongol. Après, il a essayé de tuer un Russe au Kremlin-Bicêtre.
C'est bien pour finir.
Non, mais à chaque fois, c'est... Et celui du Thalys, vous avez vu ce... Eh, celui du Thalys, c'est quand même lui la preuve que Dieu existe. Il est dans le seul wagon où il y avait trois GI américains. C'est quand même pas le genre.
Magique, merci pour cet extrait,
merci.
Pablo.
C'était formidable. Super.
Merci à vous. Enfin, c'est
ça
cool.
Fait du bien de rire, ça fait vraiment du bien.
On en a besoin.
Exactement. Yes. Eh bien écoutez, on va faire une très courte transition musicale et on va rapporter un petit peu de bonheur, vous allez voir.
Du bon.
Dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacant, évanoui. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Un seul verdict, la vengeance, une vendetta telle une offrande votive, mais pas en vain, car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux, alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V.
Vous aurez tous reconnu V pour Vendetta, Vendetta avec oui. Le magnifique Hugo Weaving qu'on ne voit pas du film en chair et en os, mais dont la présence est imposante et impressionnante à l'écran.
Ouais.
Donc V pour Vendetta, c'est un film dont j'ai eu envie de parler suite aux événements, parce qu'il nous rappelle dans les histoires de vengeance et la tentation de la vengeance finalement qu'on pourrait avoir, que finalement la vengeance est quelque chose qui consume l'homme et que c'est peut-être quelque chose qui, ou comme le personnage de Natalie Portman le découvre, quelque chose qu'il faut dépasser pour retrouver son humanité perdue.
Alors, V pour Vendetta, du coup, peut-être que c'est Tchaïkovski qui va m'accompagner pour en parler, puisque ça faisait partie du film et que ça peut être intéressant d'avoir ce petit intermède, ce petit accompagnement culturel. Alors, il faut parfois mettre de côté certains facteurs hein, pour laisser sa chance à une œuvre. Parce que V pour Vendetta, je vous rappelle que c'est l'adaptation, le film est une adaptation d'un roman graphique. Alors, nul doute que la comparaison entre le roman graphique et son adaptation le fera basculer du côté obscur des adaptations. Pourtant, pris isolément par un spectateur qui ne connaîtrait pas son encombrant modèle, V pour Vendetta se défend plutôt bien. Voyez-vous, voici ce dont est vraiment capable ce film. Être vecteur de violents, virulents mais voluptueux dialogues, véhiculant des valeurs et vertus avec une virtuosité véritable. Vraisemblablement, la verve vénérable de Weaving vitalise V vis-à-vis du visiteur du Londres virtuel que vous êtes. Victime d'une expérience à faire vomir, V vit pour se venger de ses bourreaux, de villes vermines vipères vénéneuses complètement vaines et vulnérables face aux vindicatifs masqués. Ce vénard rencontrera Ivy, Nathalie Portman, vierge de tout reproche et veillera à sa nouvelle vocation. Se vantant d'effets visuels valables, de scènes d'action véloces qui valent de l'or et d'une vedette venue vérifier ses véritables capacités vocales, V pour Vendetta vous vend du rêve à vous en donner le vertige. Vibrant vestige d'une humanité violée par un vilain vieux virulent vicelard avec sa vision de la dictature, mais contré par un vaillant et vigoureux vengeur, V pour Vendetta vous fait voir une version voilée de la vérité par un gouvernement volontairement violent et vulgaire. Un film vrai donc, vital, non vide de sens, qui a pour volonté, voire pour vocation, de faire réfléchir. Et c'est pas peu dire dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Yes. Alors, V pour Vendetta est l'un de ces films qui osent, qui peuvent déranger même, d'autant plus qu'il est axé grand public. Rares sont ces métrages qui proposent des sujets aussi brûlants sans jamais tomber dans l'extrême. V pour Vendetta est au contraire une œuvre raffinée, bien écrite, empreinte de poésie et de fureur, capable de captiver le spectateur grâce à des dialogues qui sonnent justes et résonnent en écho avec notre société. Techniquement, le film est beau, James McTeague possède visiblement un grand sens du montage tant l'ensemble s'accorde, on en a parlé tout à l'heure. La mise en scène nous dépeint avec une précision captivante un univers cohérent dans lequel des messages forts et des idéaux sont présentés, laissant à chacun le soin d'en faire une interprétation particulière. C'est d'ailleurs l'autre qualité de V pour Vendetta, sa capacité à allier l'œuvre grand public au film plus sociologique. Le tout est également porté par des acteurs de choix. J'ai déjà cité Hugo Weaving, que vous connaissez peut-être aussi pour les plus anciens dans Matrix, comme l'agent
Smith.
Mr. Smith. Et Nathalie Portman et Stephen Rea en tête. Certes, c'est avant tout à son scénario profus qu'il doit son intérêt. De la découverte progressive d'une société dystopique au portrait complexe d'un justicier masqué, de l'initiation à l'engagement résistant au décryptage du néofascisme, le film explore simultanément plusieurs pistes avec un joli sens de l'équilibre. C'est d'ailleurs avec un calme certain qu'il construit son édifice, encadré par deux explosions lyriques en diable, sur du Tchaïkovski tonitruant. On est par exemple étonné de l'atonie des deux flics sur les traces de V, de même que les longueurs de discussion avec Ivy prennent le tour de cours de philo dans une alcôve, musée clandestin à l'abri du monde. De ce fait, le film est très british et y gagne un ton singulier qui l'éloigne des traditionnels blockbusters, le rapprochant d'un autre champ crépusculaire de la civilisation, de loin supérieur il est vrai, comme par exemple les Fils de l'Homme. La condamnation est généralisée du règne de la télévision au Big Brother des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je l'ai vraiment dit là.
Les réseaux sociaux.
Des accointances entre l'industrie, le fascisme et l'église. La société des peintres envoie à celle de Brésil, mais sans l'humour et avec cette conviction un peu plus naïve d'un possible infléchissement des événements par la volonté d'un seul. La volonté de chacun finalement. Ce qui pourrait sembler être une mauvaise gestion du rythme finit par servir l'ensemble. Assez ténu, sombre et lucide, le film est en réalité au diapason de cette préciosité britannique de V, qui parle comme dans une pièce de Shakespeare et se voudrait l'un des rares survivants de l'espèce humaine d'avant la chute. De ce fait, V pour Vendetta est davantage une utopie qu'un blockbuster. Cette volonté de croire à l'humanisme et à la possibilité d'éduquer les foules, ce chant d'espoir et d'amour presque gothique, sorte de fantôme de l'opéra, timoré, où les sous-sols d'un monde à la dérive promettent des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, on aurait envie d'y croire, d'autant que le film nous donne un argument imparable par la présence de la chanson « Long Black Train » de Richard Hawley. Oui, la beauté subsiste.
city's golden lights shining on by the long black trains, by the long black trains, takes us all black trains.
C'est bientôt la fin de l'émission.
Alors Adrien, un petit mot, je voulais juste te remercier. Elle était magnifique cette chronique. Et elle est... Alors d'abord les allitérations V, on a kiffé. Et puis c'est un très beau cinéphilo. Bravo.
Ouais, bah ouais, mais on aime ça, bon Geek Mafia.
C'est clair, merci.
L'éclectisme
Adrien.
Est au cœur de notre émission.
L'éclectisme.
Donc, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine de 19h à 20h sur Radio G, 101.5 FM en direct ou en podcast, si vous n'avez pas le plaisir de nous écouter en direct. Héloïse, c'était un plaisir.
Un plaisir partagé. Ravi d'être de retour de temps en temps, ça me fait plaisir.
Pablo, plaisir également. Merci pour ta
grand
magnifique chronique et ton hommage.
Merci à vous.
Et Anaïs, merci de nous proposer des futures soirées, Siri.
Et de rien. Bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée, chers auditeurs.
Bonne soirée. Allez.